Bonjour à tous. Je crois que la transition, elle est toute faite. Le thème de la première partie, c'était l'évangile. Et puis, avec ce que Maurice nous a partagé tout à l'heure, la reconnaissance. Est-ce que cela vous arrive de faire une pause pour penser aux bonnes choses de votre journée ou de votre année, puis dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour votre famille, merci à Dieu pour votre santé, votre nourriture, vos libertés et plus encore. Je crois que le chrétien, plus que quiconque, a de nombreuses raisons de dire merci à Dieu. Même si les choses sont difficiles, comme en ce moment, avec l'inflation, les crises que nous traversons, que nous connaissons, et pour certains, la maladie ou le deuil. En tant que chrétiens, nous avons de multiples bénédictions pour être reconnaissants à Dieu. Et parmi ces bénédictions, nous pouvons citer le souffle de vie en nous, le sacrifice de Jésus-Christ, la fidélité de Dieu, et plus encore. Une chose certaine dans la parole, c'est qu'en Christ, nous avons tout. Et derrière cette belle affirmation, on peut se demander, sommes-nous reconnaissants pour ce qui compte? Sommes-nous même conscients de ce qui compte le plus? La Bible nous enseigne d'avoir de la gratitude en toutes circonstances. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Notre problème, c'est que dire merci à Dieu en toutes circonstances, ce n'est pas simple. Ce n'est pas si facile. Vous me direz, que faire? La réponse est courte. Prier. Prier et que demander à Dieu, puisque nous avons tout en Christ. C'est ce que je nous propose de survoler en lisant ensemble un texte dans le livre d'Éphésiens. Nous lirons Éphésiens 1, du verset 15 au verset 23. Et la version que je vais afficher, c'est celui de la Bible en français courante. Mais en préambule à cette lecture, gardons en tête que Paul, dans son propos, ne demande pas aux chrétiens de nier leurs problèmes, leurs besoins, de nier leurs douleurs ou de nier leur lutte pour se projeter dans un futur en disant merci à Dieu. Non, non, bien au contraire. Paul reconnaît pleinement les besoins et les luttes des croyants ici. Il en parle dans d'autres textes en disant qu'il a fait face à l'abondance, il a eu faim, qu'il a connu des faiblesses, il a connu des insultes et des difficultés. C'est donc conscient de tout cela que Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Avec quoi? Avec des actions de grâce. En cela, Paul nous rappelle simplement que l'existence d'autres réalités, il nous dit qu'il y a d'autres réalités plus importantes que nos besoins physiques du quotidien ici-bas, et que ces réalités devraient façonner nos désirs et nos besoins du quotidien. On peut alors se demander, ok, Dieu, si Dieu a déjà tout donné, on a déjà tout en Dieu, alors que pouvons-nous et que devons-nous demander à Dieu dans nos prières? Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour chercher des éléments de réponse à cette question, en lisant ensemble le texte d'Éphésiens 1, du verset 15 au verset 23. Et le livre d'Éphésiens se trouve dans vos Bibles, entre Galates et Philippiens. Et ce que j'aime bien sur vos smartphones, vous pouvez le trouver très facilement, ça, c'est facile à trouver. L'autre jour, ça m'avait complètement perturbé. J'avais sur ma Bible, il y avait la possibilité de cliquer sur le classement par ordre alphabétique. Et je le connais dans l'ordre classique, mais je cherchais les livres, ils étaient en ordre alphabétique. C'est vraiment perturbant. Mais bon, voilà, vous pouvez prendre sur vos smartphones, vous trouverez le texte de Galates, dans le texte, donc le Éphésiens, c'est entre Galates et Philippiens. Mais avant de lire le texte, je vous invite encore à prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Et pour comprendre cette vérité, nous avons besoin de ton éclairage. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour faire pénétrer ta parole dans nos cœurs et nous mettre en mouvement pour toi. Et devant ta parole ce matin, nous te demandons de faire encore ce miracle. Fais le miracle de nous faire écouter ce que tu veux nous dire et que ça transparaisse dans nos vies. Parle à chacun de nous ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte de Philippiens 1, 15, 23 est une prière de Paul pour les croyants d'Éphèse. Plus généralement, je dirais de façon générale, c'est une prière pour des gens qui ont déjà tout en Christ. Que dit Paul dans cette prière ? Je vous invite à lire les deux premiers versets, 15 à 16. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Si vous avez foi en Jésus-Christ et si vous aimez les autres, n'arrêtez jamais de vous émerveiller. Car quelque chose de surnaturel est en train de se passer en vous. Le Saint-Esprit est encore en œuvre en vous. Alors dites merci à Dieu. Que fait Paul ici? Il remercie Dieu dès le début de sa prière pour la foi des croyants d'Éphèse. Paul nous montre par là qu'un premier filtre possible pour dire merci à Dieu et pour rendre de la gratitude à Dieu. C'est ce que j'ai essayé de mettre sous ce titre. Nous pouvons et nous devons toujours dire merci au Seigneur pour la foi de nos frères. Je crois que, indépendamment de nos circonstances de vie, de ce que nous pouvons vivre, nous pouvons et nous devons remercier Dieu pour la foi en Christ des autres. Paul ici est reconnaissant à Dieu après avoir entendu parler de la foi des chrétiens d'Éphèse. Pensez-vous qu'il remercie Dieu parce que les croyants d'Éphèse étaient des croyants exemplaires, des croyants modèles, des croyants qui avaient une foi extraordinaire, un amour parfait les uns pour les autres? Évidemment non. Car si c'était le cas, Paul n'aurait pas à écrire cette lettre à l'église d'Éphèse. Paul remercie Dieu ici parce qu'il a entendu parler de leur foi, de la manière pratique dont ils vivaient leur foi, c'est-à-dire avec un amour pour tous les croyants. Paul reconnaît bien les chrétiens d'Éphèse. Il les connaît bien pour avoir passé déjà 2 ou 3 ans au moins avec eux à Éphèse. Il a certainement vu beaucoup de personnes venir à la foi en Christ. Et quand Paul entend parler de leur foi, cela le réjouit, cela l'émerveille, exactement comme on peut s'émerveiller de voir grandir une plante. Je crois que cet émerveillement, les amateurs du jardinage peuvent comprendre vraiment cet émerveillement de Paul. Pour certains, le moment extraordinaire du jardinage, c'est quand les fleurs s'ouvrent ou les légumes poussent. Je ne suis pas amateur de jardinage, mais je m'émerveille de voir les plantes sortir, de voir les feuilles sortir et pousser. Nous sommes en pleine période actuellement pour observer la vie renaître dans la nature. Je dirais que c'est fascinant. Cela pousse à l'émerveillement. Et c'est ce que Paul fait en entendant parler de la foi des chrétiens d'Éphèse. Paul dit « peu importe si leur foi est importante ou si leur foi est faible, peu importe s'ils ont un amour mature ou immature, mais Paul s'émerveille, car il voit la preuve d'une nouvelle vie en eux. Il voit le miracle de la vie de Christ en eux, et il loue le Seigneur pour cela. » Paul nous enseigne par là qu'un moyen pour cultiver notre gratitude à Dieu, c'est de considérer les autres, ou plus exactement de considérer l'œuvre de Dieu dans les autres, de voir le miracle de la vie de Christ dans les autres, de voir ce que Dieu a fait au travers de la foi des autres, à travers notre famille, de vos amis, de toutes les personnes qui sont une bénédiction dans votre vie. Maurice nous l'a montré tout à l'heure. On voit l'œuvre de Dieu en lui. Et cela me renvoie à une petite question. Est-ce que notre manière pratique de vivre la foi interpelle les autres? Est-ce que nous prêtons suffisamment attention à la foi des autres au point de remercier Dieu pour cela? Et ces deux versets nous encouragent à être à l'affût des œuvres de Dieu dans les personnes qui nous entourent et à remercier Dieu pour cela. Je sais, c'est quelque chose de difficile à faire car nous avons tendance à être égocentriques, voire orgueilleux. Pour s'en convaincre, il suffit de se poser la question « Suis-je joyeux ? Suis-je envieux ou indifférent à la croissance spirituelle des autres ou aux dons des autres ?» Il y a là, sur cette question, peut-être du repentir à faire aujourd'hui. En tout cas, Paul, dans sa prière, nous invite à remarquer chez les autres ce que Dieu a fait dans leur foi et à dire merci à Dieu pour cela. Vous me direz, concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Très rapidement, quelques exemples parmi tant d'autres. Nous pouvons nous réjouir et dire merci à Dieu quand quelqu'un fait courageusement un pas de foi en suivant Jésus. Ou quand quelqu'un souffre tout en faisant confiance au Seigneur. Nous pouvons l'encourager et remercier Dieu pour sa confiance en Christ. Ou encore quand quelqu'un partage l'évangile avec un ami non chrétien ou quand il va sur le terrain de la mission. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu quand quelqu'un donne son temps pour servir, par exemple dans les activités de l'Église, que ce soit conseil, l'enseignement des enfants, à la sono. Nous pouvons dire merci quand quelqu'un donne son temps pour servir dans une association. Merci à Dieu. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu quand quelqu'un se prive de quelque chose, de l'argent, de son temps, pour le donner à quelqu'un d'autre dans le besoin. Et dans le verset 15-16, Paul remercie Dieu pour la foi de ses frères croyants. Et au verset 17-18, Paul ajoute un point intéressant que j'ai résumé avec cette phrase. Nous pouvons et nous devons toujours demander à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation pour mieux le connaître. C'est ce qui nous est dit dans le verset 17 à 18, que je vous invite à regarder avec moi. Dans ces versets, cette prière, Paul nous dit ceci. « Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Paul dit en gros, je prie afin que Dieu vous donne quoi ? Vous donne Dieu. Ça, c'est fort. Paul demande donc à Dieu que ses lecteurs reçoivent la sagesse et la révélation. Pourquoi faire ? Pour qu'ils aient une connaissance plus approfondie et plus intime de Dieu. Parlons un peu de la sagesse et de la révélation. La sagesse ne se trouve pas dans l'intelligence humaine, ni dans l'ingéniosité humaine, ou encore moins dans l'habileté humaine à manipuler la vérité de Dieu avec nos connaissances humaines. La vraie sagesse, c'est un don. C'est un don de Dieu. Et quant à la révélation, c'est l'action de révéler une vérité cachée. En photographie, pour révéler une image latente, je ne sais pas si certains ont déjà fait de la photo. Avant, on a notre smartphone, clac, clac, c'est fait. Mais avant, on prenait des photos et puis on le développait. Il y avait un bain dans lequel on le mettait. L'image latente était derrière, on ne la voyait pas. Et on le met dans un bain révélateur. Et le bain révélateur nous permet de voir l'image qui est derrière. Et ici, en photographie, donc on a besoin, pour révéler l'image latente, on utilise un bain révélateur qui transforme l'image latente en une image visible. Paul demande ici à Dieu que les croyants aient ce révélateur afin de voir l'image de Dieu. Le philosophe Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». Vous savez ce que ce texte nous dit, ce que la Bible nous dit ? Il nous dit « Connais Dieu par Jésus-Christ ». En effet, seul Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit, peut nous donner la sagesse pour nous connaître nous-mêmes et diriger correctement notre vie. Seul le Saint-Esprit peut nous ouvrir l'intelligence spirituelle pour connaître réellement Dieu. La preuve, s'il en fallait, c'est que Jésus sur cette terre dépendait totalement de l'Esprit du Père pour toutes ses décisions. Savez-vous qu'il y a une énorme différence entre connaître quelqu'un et vraiment le connaître ? On peut connaître une personne célèbre, savoir tout sur sa vie, sans jamais le rencontrer. Si vous êtes amateur de basketball et autres, certains connaissent plein de trucs sur leur sportif préféré. Mais sans jamais l'avoir rencontré. Ils peuvent même dire leur date d'anniversaire, ce qu'ils aiment manger, etc., mais sans avoir jamais rencontré cette personne. Cette connaissance est différente de la connaissance relationnelle intime d'une personne. Je peux dire que je connais un peu mes enfants, ma famille, car j'ai une relation régulière, une communication régulière avec eux. Je les rencontre. Nous vivons et partageons ensemble des choses. Permettez-moi de vous poser cette question. Connaissez-vous vraiment le Seigneur ? Ou le connaissez-vous seulement de loin, sans vraiment l'avoir rencontré, sans avoir une relation intime avec lui ? Le Seigneur est-il votre ami ? Nous l'avons entendu dans une prière ce matin. Est-ce qu'il est votre ami ? Est-ce qu'il est votre confident ? Est-ce qu'il est votre père aimant ? En tout cas, si tu ne connais pas encore le Seigneur, sache que lui, il te connaît. C'est écrit dans Romains 5, verset 8, qui dit « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Christ n'attend qu'une chose de toi, te rencontrer, t'offrir une nouvelle espérance et une nouvelle vie. Ne lui tourne pas le dos. Si tu veux répondre à cet appel aujourd'hui, n'hésite pas à en parler à quelqu'un des conseils à la fin de ce culte. Ce que nous enseigne Paul ce matin va au-delà de connaître et d'avoir une relation intime régulière avec Dieu. Paul nous dit en substance ceci, même si vous connaissez bien le Seigneur, même si vous avez déjà une relation intime avec lui, sachez qu'il y a toujours plus d'intimité relationnelle à avoir avec Dieu. Alors, priez. Priez pour avoir toujours plus d'intimité, plus de relations avec Dieu. Et au verset 18, Paul continue sa pensée en demandant dans sa prière pour les croyants ceci. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Nous avons là donc besoin, dans notre fort intérieur, d'être renouvelés, d'être régénérés par l'éclairage du Saint-Esprit. Un petit rapprochement de ce verset 18 avec l'idée de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances nous fait percevoir un deuxième filtre par lequel nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et ce filtre, c'est de considérer qui est Dieu, de considérer son amour de Père, sa bonté, sa fidélité, ses œuvres, sa création, le don de son Fils, la présence de son Esprit-Saint. Ce que je trouve fascinant dans les 5 derniers versets que nous allons lire, c'est que Paul pouvait prier pour tant de choses différentes pour les chrétiens. Il pouvait prier pour leur protection, leur santé, l'unité, l'évangélisation, la croissance et bien plus encore, comme nous le faisons des fois quand nous prions pour nous ou pour notre Église. Mais au lieu de cela, Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse réalisent l'infinie puissance de Christ en eux. C'est ce que j'ai essayé de résumer avec cette troisième phrase. Nous pouvons et nous devons toujours demander à Dieu de nous faire réaliser notre position glorieuse en Christ. C'est ce qui nous est dit dans ces 5 derniers versets que je vous invite à lire avec moi. Et qui dit ceci, « Et quelle est la puissance extraordinaire ?» Ah, je vais l'afficher, elle est là. « Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants ? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. » Quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. En gros, Paul nous dit que nous avons à portée de main spirituelle toute la puissance de Dieu. Rien que ça. Et je crois que cela change tout pour nous, pour notre présent aujourd'hui. Le plus fort dans ce verset 20, que j'aime bien, où il dit, écoutez bien, Dieu dispose pour nous les croyants la même puissance qui a ramené Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Waouh! Vous réalisez cela? Nous avons à notre disposition spirituelle la même puissance qui a ressuscité Christ des morts. Et cette même puissance travaille en nous aujourd'hui et maintenant. Cela veut dire qu'aujourd'hui même, il n'y a aucune culpabilité qui ne puisse être ôtée par Dieu. Il n'y a aucune puissance ici-bas qui ne puisse être vaincue par Dieu. Il n'y a aucune situation qui ne puisse être transformée par Dieu. Nous avons là de quoi être reconnaissants à Dieu. Non seulement pour la vie éternelle à venir, mais aussi pour notre réalité d'aujourd'hui, car sa puissance, son Esprit Saint, est là, ici et maintenant. Alors, au lieu de grimacer, de se plaindre, de râler, de se focaliser que sur nos difficultés du moment, regardons et goûtons à l'amour de Dieu. Regardons et goûtons à la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a donné, qui est là. Et accueillons cette puissance en disant merci au Seigneur. Paul nous rappelle donc dans ce verset qu'en Christ, nous avons une position puissante et glorieuse. Pour vous, Paul nous dit encore ce matin, ne vous sous-évaluez pas. Vous êtes héritier d'un Dieu tout-puissant et glorieux. Cela nous montre un troisième filtre possible par lequel nous pouvons rendre gloire à Dieu, nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et ce filtre, c'est vous. C'est vous avec la puissance du Saint-Esprit en vous. Pour conclure, le défi que je nous lance pour aujourd'hui, c'est de faire une pause et de prendre un instant pour trouver un sujet de gratitude. Soit à travers la foi des autres, y a-t-il quelqu'un dans votre entourage pour lequel vous aimeriez dire merci à Dieu? Soit à travers la personne de Dieu, dans quel domaine pouvez-vous être reconnaissant ou reconnaissante à Dieu pour son existence, pour qui il est? Ou soit à travers vous, qu'est-ce qui vous rend unique et qui peut être un sujet de louange? Et pourquoi pas au travers des trois filtres? La foi des autres, la personne de Dieu, qui il est, et vous avec le Saint-Esprit en vous. Je vous invite encore à prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour ton sacrifice à la croix et pour ta résurrection qui fait de nous un peuple mis à part. Merci pour la foi de nos frères chrétiens d'autres communautés. Merci Père pour qui tu es. Merci pour ce que tu es. Tu es un Père aimant, un rocher et une forteresse pour nous. Oui, Père, donne-nous ta sagesse et ta révélation pour te connaître chaque jour, de mieux en mieux, et avoir plus d'intimité relationnelle avec toi. Oui, Père, illumine les yeux de nos cœurs afin de prendre pleinement conscience de l'espérance à laquelle tu nous appelles. Nous te prions pour que cette espérance façonne vraiment notre vie actuelle. Oui, Père, fais-nous la grâce de partager avec nous, partager autour de nous, ta bonté envers nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite l'équipe de louange à revenir.